radio-g.fr.
Le jour où on m'a dit, il va falloir faire tout seul, j'ai d'un.
Un micro. On est dans les studios du 101.5, l'équipe d'Imaginaire, et on a un invité cette semaine.
Ouais.
Youhou. Et ouais, c'est la première fois qu'on reçoit un photographe.
On c'est, a vrai. Personne... c'est vrai qu'à la radio, un photographe en même temps, c'est pas.
Ouais, ça va être compliqué d'en parler, mais justement, ça va être.
Il y a une émission sur France Inter qui reçoit que des photographes.
Ah bon, d'accord. Et là, on est sur le 101.5, donc on reçoit Aichi qui va nous parler de son expo Cyberpunk Angers.
Angers, les nuances de la nuit, c'est bien ça.
Voilà, qu'on peut voir à la bibliothèque municipale Toussaint dès aujourd'hui en fait,
ouais.
Et jusqu'au 4 avril. Sinon, donc on aura les chroniques de Julien qui est venu avec un jeu de société.
Oui, je suis venu avec un petit jeu qui s'appelle Crazy Theory, qui a été fait par deux joyeux drills. On en parlera tout à l'heure. Et je pense qu'en ce moment de coronavirus, les théories du complot, ça peut aller, ça peut battre son plein. Mmh. Voilà. Sinon, je parlerai Paris fantastique, fantasmatique, allégorique, tout ce que tu veux dans les années 1920.
Tout d'accord, parfait. Patrice qui va nous parler de
films, voilà, pour une de fois. Films. Mais pas que de films
mais s'il
fantastiques.
Fait sa vie au ciné, donc c'est bien. Au moins, il y en a un qui va dans cet assaut. Et puis Jean-Hugues.
Ben moi, j'ai parlé de films aussi, trois. J'ai parlé de la fin de la saison 6 de Lost et puis de 3-4 bouquins qui m'ont marqué en bien ou en moins bien.
Oula, et là c'est un petit peu fort. Alors on commence, tiens je vais mettre un petit peu de son parce que c'est un genre de blind test. Ben justement ce sera peut-être Aichi qui va trouver, alors c'est pas l'original ça, c'est une version un peu électro d'un célèbre thème de musique de science-fiction. Bon ben voilà. On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5. Oh, bien joué!
Non, j'ai pas osé le dire!
C'est quoi?
Je l'avais aussi.
pas l'écouter en entier. C'était le, je crois, le premier morceau de Le Matos qui était paru sur le net, parce que c'est le premier morceau de leur compile Coming Soon 2007-2011 qu'on trouve sur leur page Bandcamp. Je sais pas, Aishi, tu connaissais Le Matos, non?
Non, non, pas du tout.
Moi, je suis très fan, je les passe assez souvent dans cette émission. Pour moi, c'est un peu les Daft Punk québécois que j'ai découvert, en fait, parce qu'ils faisaient des BO de courts-métrages de genre, en fait. Et depuis, bah voilà, ils ont fait des BO d'ailleurs de films comme Turbo Kid, qui sont devenus un petit peu Summer of 84. Voilà, et c'est un peu, ouais, je dirais un son un peu entre Daft Punk et Vitalik, voilà, qui me plaît bien. Bon, et donc c'était une reprise du thème de Blade Runner, qui est un peu le bon, c'est un grand classique visuel. Hein, je sais pas, quand on parle de, on en reparlera tout à l'heure de visuel cyberpunk. Et aussi, c'était pour dire que Sid Mead, hein, c'est comme ça qu'on prononce, est décédé. Enfin, ouais, ça fait quand même trois mois, même, deux mois. Donc, était le designer qui avait fait les véhicules et les décors, en fait. Enfin, les décors, les dessins à partir desquels avaient été faits les décors de Blade Runner. Et je pense que ça a pas mal.
Ça a beaucoup fait du bruit quand il est parti, en effet, sur les réseaux, il y avait que ça partout.
Ah ouais, c'est vrai.
Les concept art qui tournaient, même. C'était, ça faisait plaisir à voir un petit peu, il y en avait partout.
Mmh. Donc, un mec qui a un petit peu posé les bases, peut-être des visuels cyberpunk, en fait. Hein. Mmh. Jusque-là, qui était plutôt dans la tête des gens, ou dans les écrits, je sais pas, de William Gibson.
Ouais, il y avait des trucs, mais c'était pas. Là, c'est vrai que ça avait vraiment révolutionné le genre, quoi.
Mmh. Bon, ça n'a rien à voir, mais Freeman Dyson est mort aussi.
C'est qui?
Bah, celui qui a inventé la sphère de Dyson. Oh, tous les amateurs de SF savent ça.
On en a parlé il y a deux semaines dans cette émission. Enfin, Laurent Genefort, dans son interview, en parlait. Ouais.
Tout à fait.
Mais il est mort.
Bon, ça fera l'objet d'une chronique scientifique du professeur Patrice, non?
Il faudra que je me documente un peu plus quand même. Parce que ce soir, ça va être chaud.
Bon, en attendant. Attends, oui, t'attends ton générique en fait.
Bah oui, oui, bah, je pouvais pas démarrer.
Voilà. Voilà.
Félicitations, Reggie. C'est un. Calamar.
Bonjour, bien aimés auditeurs, animateurs et tutti quanti. Ça y est, je commence à craquer. Faut dire que j'ai regardé quelques films relativement récents, comme dirait mon ado préféré, c'est-à-dire sortis en 2019. Et après, on se demande pourquoi les gens votent n'importe comment. Je passe Black and Blue, où une jeune femme policier, noire, anciennement soldat en Afghanistan, tombe dans un commissariat corrompu jusqu'à l'os, ce qu'elle découvre en se faisant tirer dessus par un de ses collègues. Disons-le tout de suite, c'est de la guimauve trop sucrée et trop collante. N'allez pas perdre votre temps avec ça. Ça finit super bien. Elle démonte la police, les gangs, presque Trump, aidée par une ancienne pote droguée jusqu'à la moelle, un tenancier de supérette et son coéquipier qui retourne tellement sa veste tout le long du film que j'en suis encore tout ébouriffé. Code 8. Ouais, un conte dystopique sur des personnes ayant des pouvoirs rejetés par une société automatisée où les mutants sont utilisés comme ouvriers au noir et les rues sont quadrillées par des flics dont un très gentil est d'origine chinoise, si si, il en reste, et des drones largueur de robots de combat. La maman du héros, que l'on surnommera Electrochoc, est très malade et son fils, le héros de l'histoire, n'a pas un rond. Une bande de malfrats sous-traitant pour d'autres malfrats encore plus méchants qu'eux recrute Electrochoc pour faire des trucs de méchants, mais ça paye et il veut absolument soigner sa maman adorée. C'est presque aussi crédible que Black and Blue et presque aussi guimauve. Je me demande juste si Electrochoc n'est pas un petit peu plus con que l'héroïne du film précédent. Over, ouais, un conte dystopique écologiste. Claudia, interprétée comme il le peut par la splendide Cleopatra Coleman, et John bossent pour une société qui pratique l'euthanasie volontaire pour des malades en fin de vie qui souffrent. C'est propre, plein de compassion, bien fait. Alors le truc, c'est que ça ne touche que des agriculteurs. Faut dire que la vie n'est pas rose dans le futur proche. Malgré les promesses de l'échevelé états-unien, c'est la sécheresse. Heureusement, un clone de Monsanto a fabriqué un drone révolutionnaire qui arrose les cultures, y met de l'engrais, des pesticides et détruit les nuisibles. Bon, d'accord, c'est de la location à vie, ça coûte un peu cher, mais il faut bien que les gros actionnaires s'enregistrent sur la misère. Mais est-ce que tout cela est bien normal? Les paysans qui passent l'arme à gauche à toute vitesse depuis qu'il y a ces drones? Et c'est quoi cette société d'euthanasie qui arrange tout le monde? Et pourquoi John meurt-il chez lui dans des circonstances étranges? Bon, ok. C'est cousu de cordes à nœuds blanches grosses comme le bras. Ça n'est d'écologique que le fait que ça se passe dans le monde agricole, et le monde agricole est écologique, sûrement. Les gentils font pitié, et les mauvais sont risibles. En plus, je ne sais pas bien, je sais que je ne suis pas très malin, mais j'ai toujours pas bien compris les motivations des capitalistes. Ah, et puis j'ai fini la saison 6 de Lost, vous savez, la série qui se passe sur une île bizarre, où il se passe plein de trucs bizarres aussi. Bah, ça finit par une pirouette sans cacahuète qui, à défaut d'expliquer l'ensemble des mystères de l'île, permet aux scénaristes d'élégamment se débarrasser des incohérences de l'histoire. Les mauvaises langues pourront dire que c'est un peu déiste, mais bon, ça permet de clore le truc qui était au bord de tourner en rond. J'ai lu aussi des trucs. Des fois, je lis un truc préhistorique, comme dirait mon ado, pour me détendre. Je tournicotais autour depuis un moment et là, paf, un Charles Williams de 1951, la fille du marais. Charles Williams, c'est le monsieur qui a écrit Fantasia chez les Ploucs, ressorti dans une nouvelle traduction chez Gail Master, et oui, j'en veux bien, monsieur Védrenne, qui a donné lieu à un film en 1971, oui, avec Lilou Ventura et Jean-Yann. Bon, faut dire qu'il détourne un tout petit peu l'œuvre originale. Il faut lire Charles Williams, le type qui en trois pages t'a plongé dans l'ambiance du sud états-unien. Tu te mets à transpirer, sentir le fumet de poisson-chat qui cuit au barbecue, avoir un goût de clope dans la bouche. Bien entendu, c'est extrêmement noir, et la description du tourbillon qui entraîne notre amoureux de héros vers le fond est vertigineuse. Et pour avoir le vertige au fond, faut le faire. Une chronique un peu plus détaillée sortait dans la tête en noir de Mars. Et puis en m'adressant, je viens de finir Sherlock Holmes vs Cthulhu. Alors VS, ça veut dire contre en anglo-saxon. C'est trop la classe, VS. Non mais nous, on le fait pas en France. Les dimensions mortelles de Lois H. Green chez Yenis Éditions. Alors il faut bien dire que le fait que les deux stars de la littérature polaire d'un côté et fantastique de l'autre soient dans le domaine public est en train de devenir une catastrophe littéraire. À quand les SAS et Sherlock Holmes contre les Cthulhu dans la brume, il est pieds Nickley Watson contre Nyarlathotep, Avengers coincé entre Arkham et Baker Street. Je vous avais dit tout le bien que j'avais pensé du travail de James Lovegrove sur le sujet. Bon, pour celui-ci, je suis un peu plus mitigé. D'abord, les canons des deux stars ne sont pas respectés, et là, carton rouge. Et puis, on voit bien que le mythe de Cthulhu est un pur prétexte. Ça aurait été le zombie de Bob l'éponge, ça le faisait aussi. Bon, soyons honnêtes, il y a des trucs marrants. Bon, allez, le pitch, vite fait. Vous pourrez lire une chronique plus complète sur le site Calibre. Des menuisiers ébénistes, de père en fils, depuis des pleins de générations, réalisent des meubles bizarres d'une finition inconcevable, et aux propriétés pour le moins particulières. Et dans le cœur de Londres, une machine à vapeur a des effets désastreux sur le voisinage, pire, elle semble grandir d'elle-même. Heureusement, Sherlock Holmes va intervenir en mode « quand la logique m'échappe, c'est qu'il n'y a plus de logique ». Et il va tenter de tirer au clair ces deux affaires. Nous sommes bien loin de la qualité de l'œuvre de Lovegrove, mais il y a du gore et je sais que certains d'entre vous en souffriront. Je vous avais dit qu'il venait imaginer le James Lovegrove. Ben, il va
plus. Non, je crois qu'on l'avait même pas dit à l'antenne.
Trop pris. Il est revenu sur ce qu'il m'avait personnellement promis, préférant aller dans l'est de la France plutôt que dans notre bel Anjou.
Ouais, quand même.
Il ne s'en rend pas compte de ce qu'il rate.
Surtout que là-bas, il y a du coronavirus. Alors
ah, ben, chez nous, il n'y en a pas. Il meurt.
Et vu son âge.
Ah, ben, c'est ça, c'est vrai. Enfin, j'ai reçu nos amis de Flammarion Jeunesse et deux premiers tomes des Chroniques de Kelton par Jack Heath, un auteur australien que je ne connaissais pas, mais qui a fait plusieurs séries pour ados qui font un tabac dans le monde anglo-saxon, et pour cause. Le premier tome, L'Appli de Vérité, raconte les aventures de Jared, le héros récurrent de la série, il y en a cinq qui sont sortis en VO, qui a mis au point une application qui détecte le mensonge avec 99,9% d'efficacité. Genre, votre téléphone fait un buzz quand quelqu'un, vous compris, ment. Et le petit Jared a mis en téléchargement gratuit son appli sur Internet. Les premiers jours, c'est calme. Au matin du jour de la réunion parents-prof, il y avait 5000 téléchargements. En sortie de réunion le soir, il y en a 1 million et il semblerait que l'appli ne plaise pas à tout le monde. Réunion politique reportée, etc., etc. C'est là que les ennuis vont commencer. Là, je vous ai résumé le premier tiers du premier chapitre. Là, ça démarre à fond la caisse, dans un thriller haletant, plein d'actions, de surprises et de rebondissements tout genre. C'est simple, j'en suis ressorti aussi essoufflé qu'à la sortie du premier Indiana Jones, quand j'ai vu qu'à la sortie du premier Indiana Jones. Ouais, alors je sais, la majorité des auditeurs n'étaient pas nés, ça date de 1980, Indiana Jones. Le second tome, Les portées disparues de la même veine, même si lu à la suite du premier, il m'a paru un petit peu plus mou. Vous êtes ado, c'est parfait. Vous êtes adulte, c'est un bon thriller qui déménage sa race. Pour en savoir plus, n'hésitez pas, pour les prochains jours, à aller voir les chroniques plus complètes sur le site Calibre de l'excellent Julien Védrenne.
Allez, on s'écoute le premier choix musical de notre invité Aichi sur le 101.5 et on passe à l'interview après.
Je prends la vie à contre-courant, SO les zombies mourants. J'ai bien assez perdu mon temps, 200 à chialer sans calculer dépenses. Je me revois à 15 ans dans ma chambre, j'écrivais ma journée en rentrant. Il est tard et le dodo m'attend. Moi je grattais sur du papier blanc, mes angoisses de vie d'adolescent. J'aimerais me calmer mais non, y'a rien d'autre que les frères et le sang. Je crois qu'on a ça dans le sang, on peut plus s'en passer dans le fond. Les artistes sont inspirants, tristes, le bonheur ne s'achète pas à bon prix. Dans le fond tous les méchants ils font style, ils sont juste malheureux, c'est du sensé. Moi j'ai couru après les centimes, j'ai longtemps voulu rien ressentir. Tu te diras à papa que j'étais pensif, j'ai cru que je devenais fou, enfin je m'en suis même pas rendu compte. Ouais on encaisse les coups, mais même les boxeurs pètent les plombs. J'avais le sourire du clown au chômage, wow. J'avais pas compris qu'il fallait que je me dépasse, hey. La vie ça met des claques, hey. La vie ça met des baffes. Avec la weed ça met des pas, non. J'étais parti en faux départ, sur le parking j'ai pas trouvé ma place, wow. Mes parents se séparent, moi je deviens adulte, j'ai tout pris dans la face. Parfois faut supporter le poids, la culpabilité, ça pèse quand t'en portes des mois. J'oublierai pas mon frère, quand j'allais pas bien que t'es resté avec moi. Heureusement j'ai mes gars quand je m'égare, quand j'ai mes genoux dans la poussière. Je me suis promis d'être droit, me relever, passer de l'ombre à la lumière.
C'était Odor, invite Nerlof, hein. Ouais, premier ça. Choix de Aichi, notre invité ce soir. Tu peux justifier un petit peu, ouais,
alors,
ce choix?
Pas du tout dans le thème science-fiction cyberpunk. C'était vraiment un petit coup de cœur, puisqu'en fait Odor c'est un rappeur angevin que j'accompagne sur la partie visuelle, et donc il vient de sortir un EP là le 20 février dernier qui s'appelle Inodor, un 8 titres, et donc j'avais envie un petit peu de lui faire un clin d'œil en passant un de ses morceaux.
C'est beau.
Mais rien à voir avec Game of Thrones, je suppose.
Absolument pas, non.
Odor.
Odor.
Et donc, Aïchi, donc, moi, je t'avais perdu de vue il y a quelques années, ça fait longtemps. L'époque où, ouais, où tu étais vidéaste, hein, entre autres. Je me rappelle, tu avais fait une petite vidéo sur la fête des étudiants, je crois. Pour la, je ne sais plus trop comment ça s'appelle.
La nuit des étudiants au musée d'Angers, ouais, j'avais fait un peu de voix off. Je me souviens de ça.
Tu avais fait un truc, une petite vidéo qui avait fait le buzz. Bon, tu étais déjà pas mal sur les réseaux sociaux.
Ouais, toujours.
Ouais.
Après, j'ai un peu mis de côté la vidéo du coup pour.
Ok, alors raconte-moi parce qu'aujourd'hui je t'en photographe.
J'ai commencé sur YouTube en 2012, hein, je faisais des vidéos sur les jeux vidéo Minecraft, un truc très créatif. Je sais pas si tu connais un petit peu.
Non, Minecraft, carrément.
Enfin, c'est un site, voilà, tu poses des blocs, tu construis ce que tu veux, c'est sans fin.
Un bac à sable.
Ouais, exactement.
C'est des blocs, c'est pas du sable.
La bonne définition. Avec ça, donc moi je faisais une formation de graphiste à côté et donc j'étais à fond dans la création et donc en faisant des vidéos à côté, je me suis gentiment mis à la photo aussi, tu vois, j'ai acheté une caméra en 2014 et puis bah petit à petit j'ai délaissé la vidéo pour l'image fixe et donc j'ai fait mes armes en photographie gentiment avec ça et puis maintenant c'est devenu mon activité depuis 2 ans.
Et pourquoi t'es passé alors à l'appareil photo?
Parce que à force de jouer je me rendais à des événements où tu rencontres d'autres gens qui jouent et t'as envie de filmer ces événements donc il faut une caméra et après à force de filmer ces événements là tu dis mais tiens il y a d'autres choses à filmer dans la vie est belle, il y a des trucs partout qu'on peut prendre en photo, qu'on peut filmer et qu'on peut mettre en mouvement. Je m'inspirais beaucoup des clips de musique en fait, j'avais envie de faire mes propres clips de musique.
Mais pourquoi t'es passé à l'image fixe?
Et bah parce que du coup à force de filmer voilà hein, tu shootes aussi et au départ je faisais des arrêts sur image de mes vidéos pour faire mes photos parce que je savais pas faire de retouches photo et je retouchais un petit peu les couleurs dans mes vidéos et je faisais des arrêts sur image comme ça pour faire mes photos à la base et petit à petit je me suis dit bah c'est bête, j'ai un appareil photo, autant que j'utilise la fonction photo directement. Et c'est au cours d'un voyage en Irlande avec un de mes profs de graphisme qui était photographe où j'ai passé une semaine avec lui et là j'ai vraiment appris à utiliser mon appareil. Il m'a dit bah tiens cette fonction là ça sert à ça nanana et après ce voyage j'ai fait ok la photo maintenant je fonce quoi. C'était un gros coup de cœur.
Bon, et tu voyages beaucoup alors moi j'ai l'impression que t'as beaucoup voyagé ces dernières
2019,
années.
En 2019 j'ai passé les 50 000 km, j'ai fait un petit tour du monde beaucoup à travers la France et je suis passé par le Cameroun donc je suis allé en Afrique 4 jours, hein, l'aller-retour, le temps de faire un reportage dans une école et ça y est j'étais revenu quoi.
C'est une mission qu'on t'avait demandé?
C'était une mission pro, je suis allé filmer, faire des interviews dans une école. C'était hyper chouette mais en 4 jours t'as vraiment le temps de voir une autre culture, gros dépaysement. Et c'était un peu un choc parce que c'était la première fois que je quittais les frontières européennes et là voilà, grosse découverte de commencer par l'Afrique quoi. C'est ouais, un choc un petit peu de culture et même au niveau de ce que tu manges là-bas, il faut s'accrocher. C'était hyper intéressant, j'ai adoré.
Et le Japon?
Alors le Japon, bah là du coup c'était pour finir l'année et ça faisait longtemps que j'en rêvais bah, dans mes photos, donc cyberpunk, je m'inspire beaucoup des lumières du Japon, voilà, c'est une ville de lumière très colorée.
D'ailleurs je parlais des visuels de Blade Runner, Sidmet, tout ça, pourquoi il y a ce côté asiatique en fait qu'on retrouve dans la
Alors en fait c'est parce que
l'urbanisation,
parce que on considère que le peuple asiatique s'est métissé de plus en plus avec l'Occident et donc il y a des marques de la culture, des cultures asiatiques partout dans le monde, y compris là.
Et ça, c'était déjà dans les écrits de Philip K. Dick.
Tout à fait.
D'accord, ok.
Ouais.
Et en fait, c'est devenu après une grosse marque de fabrique, peut-être, alors du cyberpunk.
Ouais, et puis en fait, en allant là-bas, ouais, tu te rends compte qu'ils sont très à fond sur la technologie, ils ont des trucs que nous, on se dirait ça sert à rien, eux ils trouvent ça utile, enfin ils ont tout et n'importe quoi de technologique, donc ça paraît très logique que cette ville soit identifiée à ça quoi.
Et puis nous ça nous paraît un peu futuriste
ouais,
peut-être
ça. Hein,
parce que bon voilà, on va dans ce sens là et aussi il y a peut-être une
le futurisme.
Ouais, alors c'est aussi un côté. Il y a aussi ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et bah, il y a aussi l'urbanisation, un peu, je ne sais pas si on peut dire à outrance, mais bon, le fait que les Japonais, quoi, ils ont quand même bien.
C'est
bien
clair,
passé, quoi.
Tu passes d'un building gigantesque à une toute petite ruelle et tout est mélangé, tout est côte à côte. Et donc, c'est vrai que bah, pour le cyberpunk, c'est hyper riche en photos, en vidéos. Ça fait ville très futuriste au final.
Et du coup, alors ça a été quoi l'élément déclencheur donc, qui t'a attiré vraiment pour que tu te spécialises un peu dans la photo cyberpunk?
Alors en fait, moi, le cyberpunk, j'ai découvert ça au travers d'un photographe qui s'appelle Liam Wong, qui est spécialisé là-dedans, qui fait pas que de la photo, qui est aussi directeur artistique, hein, et qui vient de sortir un livre d'ailleurs dernièrement sur ses photos, qui s'appelle Tokyo. Et en fait, je l'ai découvert il y a 3 ans peut-être, 3-4 ans. Et en fait, donc il postait ses photos sur les réseaux. C'est comme ça que j'ai un peu découvert cet univers-là, que j'ai commencé à suivre, à m'y intéresser un peu plus. Puis un jour, en fait, en faisant des photos de nuit, sans faire exprès, moi, je me suis rapproché de cet univers en bidouillant dans Lightroom, c'est le logiciel que j'utilise pour retoucher mes images. Je me suis approché de ce résultat et j'ai fait tiens, ça me rappelle vraiment ce que fait Liam Wong. Et donc j'ai gardé ça de côté et j'ai continué à peaufiner avec le temps. Et au final, c'est aussi devenu un peu ma marque de fabrique. Et j'ai découvert plein d'autres photographes qui étaient là-dedans et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une niche cyberpunk en photographie. Et donc d'ailleurs, Liam Wong, je l'ai rencontré quand je suis parti au Japon, ce qui est assez drôle.
Elle habite là-bas, d'accord.
Alors, pas du tout, il est écossais. Il était en même temps que moi et je lui avais envoyé un message sur les réseaux pour lui demander des recommandations sur le pays. Et il m'a répondu, il m'a fait ah, bah tiens, tu peux aller là. Et il m'a dit j'y serai en même temps que toi, donc si tu veux, on se rencontre. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il m'a croisé dans la rue et il m'a envoyé un message pour me dire c'était toi dans tel quartier avec ton bonnet et ton trépied. J'ai fait ouais, c'était moi. Et du coup, il était en mouvement, donc il s'est pas arrêté sur le moment, mais du coup, on s'est recroisé quelques
fois. Mais vous étiez où là?
On était à Tokyo, une ville gigantesque. Et
mais t'étais le seul peut-être
Non, c'est un spot où il y a pas mal de photographes qui passent en plus.
Ah ouais
ouais, j'étais dans un quartier que j'avais repéré et c'était vraiment assez original qui me croise vraiment là par hasard.
Alors comment tu choisis ces endroits qui t'inspirent, que t'as envie de photographier?
Alors pour Tokyo pour Tokyo, j'avais repéré un peu les tu sais, sur internet tu fais tes recherches, les spots à voir en photo, les quartiers intéressants, et donc après tu y vas. Et après ce que j'adore faire, c'est me perdre tout simplement. Tu te mets dans une ruelle et puis tu faufiles dans les rues. Et ce qui était hyper intéressant à faire là-bas, c'était que du coup je sortais la nuit et mais vraiment à la nuit, à l'arrêt du métro, quoi. Donc c'est-à-dire que je partais à l'opposé de la ville, je pouvais plus rentrer chez moi pendant 5 heures, quoi. Mais c'était bien. D'accord. Parce que les rues étaient vides, donc il y avait personne, et là tu fais des photos hyper intéressantes parce que t'as des ruelles gigantesques mais qui sont totalement vides.
Même Tokyo, en fait, ouais. Il y a déserte la nuit.
Au final, vide sans l'être vraiment, parce qu'en fait, t'as toujours des petites ruelles qui sont en mouvement, où il y a des gens. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des restos nocturnes, puisque là-bas, voilà, la ville ne s'endort jamais vraiment. Il y a des gens qui finissent de travailler à minuit, d'autres à 4 heures. Et donc, t'as des restaurants, tu te promènes dans la rue, à 4 heures du mat, il est plein, blindé, de gens en train de manger leur ramen. Et c'était assez fou d'explorer la nuit comme ça, de se rendre compte que ça s'arrête jamais, quoi.
Et donc ce style visuel cyberpunk, alors ce sont des photos donc plutôt de nuit, hein, c'est ça, on parle.
Ouais. Enfin, alors j'en fais aussi de jour, puisqu'il y a matière à faire avec le jour, mais ouais, c'est vraiment la nuit que je m'exprime, où tu viens chercher les lumières, les petits reflets. J'adore sortir quand il pleut. J'ai longtemps cherché la pluie à Tokyo, elle est tombée qu'une seule fois et c'était de jour, donc j'étais un peu triste, mais ouais, dès que le sol brille, là tu sors après la pluie et t'as vraiment des reflets partout, des lumières dans le sol, et tu t'amuses avec ça, quoi. Donc c'est vraiment avoir un œil curieux sur l'environnement, et des fois pas chercher un truc gigantesque à prendre en photo, mais un tout petit détail qui va avoir la bonne lumière, le bon angle, et essayer de créer avec ça. Il y a beaucoup de travail de retouche aussi derrière. Hein,
donc, voilà, donc tu recolorises aussi, ça fait partie du style.
Ça fait partie du style de l'art de photographier. Pour moi, photographier, c'est aussi retoucher. Donc quand je prends ma photo, j'imagine déjà comment je vais la retoucher, comment je vais la travailler. Et je pense que aussi pour choisir ton angle, tu sais d'avance que tu vas pouvoir faire quelque chose avec, en fait. Donc c'est vraiment bien mélanger les deux, quoi. C'est un bon équilibre.
Et alors, donc, tes deux couleurs dominantes, c'est le bleu et le rose, ou le violet, hein?
Le bleu et le rose, ouais. Il y a un peu de teinte de violet, et justement depuis mon voyage à Tokyo, donc ça m'a inspiré un petit peu d'essayer de nouvelles choses. Et en ce moment là j'ai tenté un petit peu une teinte bleu rouge, donc un bleu différent du violet que j'utilise, et un rouge différent du rose, tu vois. Donc c'est encore un autre équilibre, mais qui reste un petit peu dans cet univers futuriste cyberpunk.
Et comment tu choisis alors de coloriser certains endroits par rapport à d'autres, en fait?
Alors, en fait,
c'est des
actions globales que je fais, c'est-à-dire que je viens pas peindre par-dessus, c'est vraiment je joue donc avec la température de couleur d'une photo, comme tu pourrais régler ton appareil en fait au niveau de la balance des blancs, hein. C'est donc toutes les fonctions que j'utilise, tu peux les pré-régler en avance sur ton appareil photo. Après, d'accord, moi je shoot en RAW, donc c'est le format brut qui te permet après de les retoucher le mieux possible. Donc voilà, tu viens mettre une température très froide, augmenter la saturation, la vibration transparence des couleurs, tu joues avec le gamma, les courbes, enfin plein de petites choses, l'étalonnage de ton appareil photo pour au final faire une harmonie de couleurs. Moi je suis graphiste de formation de base, donc tout ça, la couleur c'était un petit peu ce que je faisais avant la photo, et donc je retrouve un petit peu ce travail de graphisme en faisant mes photos.
Ok, et donc parlons un petit peu de cette expo qu'on peut voir à partir d'aujourd'hui à la bibliothèque municipale. Tu as appliqué un peu cette technique sur Angers.
Ouais, carrément, parce que du coup moi je suis en juin, j'ai toujours fait mes photos ici, hein, Tokyo j'y suis allé que très récemment, donc c'était un rêve de pouvoir aller photographier la nuit là-bas. Donc en amont j'ai fait pas mal de photos sur Angers en m'inspirant de cette ville sans l'avoir visitée. Et du coup après mon voyage, donc après avoir fait le plein d'inspiration là, donc je suis revenu mi-janvier, ben je suis ressorti trois semaines avant l'expo pour faire des nouvelles photos avec des nouvelles idées que j'ai prises là-bas, et donc ça fait que je propose une nouvelle série fraîchement inspirée de mon voyage au Japon, et ce qui représente 22 photos sur Angers la ville, mais aussi Angers un petit peu plus en dehors. Par exemple j'ai fait des photos à Terra Botanica. Donc c'est des photos un peu plus, je sais pas si tu les as vues celles-ci.
Ouais, j'ai réussi à identifier pas mal de trucs, ouais.
Un petit peu plus dans la nature, mais il y a matière à faire aussi avec la nature, avec les arbres, pour faire des forêts un petit peu mystiques où tu pourrais te perdre un peu dedans. Et donc il y a aussi 10 photos plus personnelles pour montrer mon travail plus global, parce que je fais pas que du superpunk. Donc ça permet de montrer un petit peu le Cameroun, le Japon, mes voyages à la montagne, voilà.
Ok. Et comment, d'ailleurs, parmi tes séries, parmi ces photos, il y en a une qui s'appelle Canopée, qui ressemble, je sais pas, peut-être à quelque chose que tu t'es dit, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature, mais en fait, c'est un environnement urbain, mais j'ai pas réussi à identifier le truc, tu l'as mis à l'envers ou.
Exactement. Donc, Canopée, en fait, elle a été prise aux Galeries Lafayette.
D'accord.
Si tu reconnais la verrière, en fait, aux Galeries Lafayette d'Angers. Et en effet, on a une très belle verrière aux Galeries Lafayette d'Angers. Je crois qu'il y en a trois comme ça dans le monde, de ce que j'ai su. Si je me trompe pas, en fait, il y a les Galeries Lafayette qui ont été rénovées. Hein. Je les avais visitées, donc on m'avait expliqué ça. Et cette verrière, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et donc, on a la chance de l'avoir à Angers. Et donc en prenant cette verrière en photo, j'ai vraiment fait un zoom sur une petite partie de la verrière que j'ai volontairement affichée inversée pour créer une déclinaison de perspective, c'est-à-dire que comme moi je la prenais d'en dessous, là on a la sensation de voir la photo d'au-dessus, et donc on bug, comme je dirais, sur la photo, on comprend pas trop l'angle de vue, et c'est ça que j'aime créer un petit peu, proposer un regard différent et qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ça, j'adore faire ça.
Parmi ces images aussi, t'as du time-lapse des fois, non?
Oui, alors du time-lapse, pas tout à fait, de la longue exposition.
D'accord.
Time-lapse, c'est quand tu viens prendre pas mal de photos pour faire une photo animée. Par exemple, tu prends un paysage, t'as les nuages qui bougent, ça c'est du time-lapse. Et là, c'est de la longue exposition, c'est-à-dire que ma photo, je la déclenche, elle se prend sur 8 secondes, par exemple.
Ah oui,
sur
d'accord, tapis, donc c'est des trucs assez rapides.
Ça permet d'avoir tous les filets de lumière avec le tram à Angers ou à Tokyo, les voitures qui passent, j'en ai mis une comme ça.
Ah, d'accord, donc ça reste quand même assez rapide. Et du coup, alors voyons, on ne sait pas, on verra le retour des Angevins. Ça doit les intriguer, du coup, de voir leur ville vraiment sous un œil de nouveau. Enfin, c'est des lieux qui nous sont familiers, mais là, qui sont un peu mis en perspective. C'est comme si ils étaient dans un autre univers, un peu. C'est marrant. Donc, l'expo jusqu'au 4 avril, il y a un vernissage vendredi.
Vendredi à 18h30, c'est ouvert à tous.
T'invites tout le monde.
Ouais, c'est ça, tout le monde peut venir. L'idée, c'est de remplir la bibliothèque pour faire une grosse fête. Non, pas tout à fait, mais voilà, c'est ouvert. Et puis, on sera très content de pouvoir échanger avec les gens qui viendront pour parler de photos ou pas, mais avoir un petit peu les retours sur tout ça et puis découvrir un peu ce que les gens en pensent.
Ok, donc rendez-vous à la bibliothèque municipale qui ferme tous les jours vers 18h30.
Ouais, 18h30, hein, c'est ouvert en journée. Ça qui est bien, c'est que du coup l'expo dure 5 semaines, donc il y a le temps de passer la voir. Et...
Même le dimanche, je crois, ils ont le
dimanche,
de chaque mois. Ouais. Et ben, on va écouter ton deuxième choix musical. Alors, est-ce que tu peux nous en parler
rapidement,
le morceau de Pretty Patterns.
C'est une musique qui s'appelle Rebirth, d'un ami à moi qui s'appelle Pretty Patterns, qui est compositeur. Et en fait, et ce qu'il fait souvent, c'est qu'il s'inspire de mes images pour créer des musiques. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que dans ce morceau, j'ai samplé des sons que j'ai enregistrés à Tokyo, que je lui ai filés, et donc il les a samplés dans la musique pour faire des sons avec. Et là, donc, il s'est inspiré d'une photo que j'ai prise dans les rues de Tokyo le dernier jour où j'étais là-bas, avec beaucoup de foule et tout, donc c'est un petit peu ce qu'il a essayé de mettre en musique, ma photo.
Ok, on s'écoute ça tout de suite sur le 101.5. Thank you. Julien, c'est à toi.
Eh bien,
5. Alors, le complot.
Alors, avant de parler du complot et de ma chronique, je voulais juste rebondir sur ce que je viens d'entendre. À la tête en noir, on va bientôt avoir un supplément qui s'appelle La tête à l'est, qui se fera une fois par an. Et je travaille avec deux personnes. Laure, qui bosse dans une maison d'édition et qui est fanatique de littérature orientale, et mon ami Christophe Noël, dessinateur et photographe installé à Tokyo, très connu pour avoir, lui, photographié le quartier de Kabukicho, qui est le quartier des prostituées, et d'y être arrivé à une époque, parce qu'il est un peu plus âgé que toi, où c'était pas très ouvert aux occidentaux. Voilà, lui, en fait, il y avait une fondation, je crois que c'était la fondation Cartier de mémoire, qui lui avait demandé d'aller photographier des paysans de japonais dans les hauteurs au Japon. Et voilà, c'était il y a à peu près 15 ans, et puis là il y est retourné et il me fait des petits dessins japonais. Voilà.
Mais quel est le projet éditorial? Alors, j'ai pas trop compris.
Le projet éditorial, c'est de parler de cinéma et de littérature d'Asie.
Dans un fanzine ou...
Dans un fanzine, La tête en noir, tu
connais.
Ouais,
d'accord, mais il y aura des numéros spéciaux, tu disais.
Ouais, ça s'appelle un hors-série.
D'accord,
il s'appellera, La tête à l'est.
D'accord. Il y en a déjà plusieurs hors-série.
Voilà,
il y a des têtes en rose.
Il y en a qui ont la tête à l'envers, j'ai l'impression.
Tête dans le rétro.
Voilà. Bon, sinon, on va parler aujourd'hui littérature, on va élever un peu le débat quand même. Hein.
Bah, t'as promis.
Bon. Je ne vous cache pas que j'avais prévu de vous parler de Martien Go Home de Frédéric Braun, paru il y a fort longtemps, dans Feu, la collection Présence du futur de Noël. Hélas, trois fois hélas. Le roman m'est tombé des mains en même temps que le pneu arrière droit de notre voiture éclaté sur l'autoroute entre Angers et Le Mans. Tout ceci sans que je puisse affirmer une quelconque relation de cause à effet. La traduction est vieillotte et je n'arrive pas à déceler si le martien est énervant volontairement ou pas. Donc j'ai abandonné. Du coup, je me suis projeté dans les années 1930 à Paris, 1927 pour être le plus précis possible, dans un univers fantasmatique, merveilleux, gothique, on y revient hein, au gothique, et surtout fantastique. 14 crocs avec un S de boucher à la fin. Bon, là c'est mon invention, le coup du S de boucher, car chez Christian Bourgois, bah, ils n'y ont pas pensé. Le roman est de mon ami mexicain Martin Solares. Il est de bon ton d'avoir un ami mexicain.
Je savais pas que tu avais des amis.
C'est ça, moi je suis obligé d'aller chercher au Mexique. Voilà, tu vois, ou je les envoie au Japon, comme ça ils sont plus tranquilles. Surtout que le mien d'ami mexicain, il a à la fois bon dos et dos sec. Pierre-Marie n'aurait pas compris ça. Non, Pierre-Marie n'aurait pas compris le côté wetback. D'habitude, Martin Solares est le chantre du roman noir social mexicain. Autant dire qu'il nous cause surtout de violences endémiques sur fond de lutte mafieuse. Vous savez, les fameux cartels. D'ailleurs, si vous avez la chance de le croiser un jour, vous ne manquerez pas d'être marqué par son regard et la peur qui l'accompagne. Et si vous discutez avec lui, vous comprendrez pourquoi ce regard, pourquoi cette peur. L'homme a cette minute noire comme nous tous. Alors là, bon, Pierre-Marie n'est pas là, mais minute noire en espagnol, ça se dit minutas negras. Bon, et on sait que Pierre-Marie cause mexicain comme une vache américaine élevée aux hormones. Revenons à ces 14 crocs. On suit la première aventure de Pierre Lenoir, Lenoir en deux mots, dans un Paris maléfiquement interlope et nocturne. Alors, il y a un homme qui est retrouvé mort exsangue devant un café. Aucun témoin, hormis le fantôme d'Oscar Wilde qui jouera les indiques. Surtout, le cadavre est celui d'un faussaire déjà mort une première fois. Et il a la marque de 14 crocs, ce qui a dû lui faire très très mal. À partir de là, l'officier de la brigade nocturne va marcher sur les pas d'un être diaboliquement maléfique. J'aime les oxymores. Pierre Lenoir, qui a hérité d'un talisman de sa tatate voyante, peut déceler le danger. Seulement, là, c'est plus du danger. Le monstre, c'est l'équivalent de la Milady de Richelieu, mais à la sauce teutonne bismarckienne. Le ton est primesautier et alerte. Pour un peu, ça nous rappellerait les romans de Gaston Leroux avec Rouletabille dans La Grande Guerre, les trucs de propagande. Bon, là, quand même, c'est barré, mais pas trop. C'est loufoque, mais pas trop. Mais c'est finement érudit avec une jolie brochette de personnages connus qui hantent les pages. Et puis, il y a ce côté gothique que j'aime tant. On croise Breton, Kiki de Montparnasse, Man Ray, Picasso et plein d'autres. C'est tout sauf gratuit. Et puis, comme il y a un faussaire de passeport, ben, on cause immigration clandestine. Un thème qui est toujours d'actualité. Surtout en cette période de coronavirus où on va encore nous rebâcher le truc. Mon petit doigt me dit qu'il y aura une suite. Elle est quand même attendue car là, Martin Solares, il a réussi à nous emmener dans un Paris criminel et mystérieux, comme Eugène Sue plutôt, comme Léo Mallet aussi, mais en seulement 185 pages, ce qui est trop peu. Alors Martin, tu nous en remettrais pas une seconde platée ? Et oui, on a les crocs. Ah, je le mens.
Sur le 101.5 avec Biche qui sera en concert demain au Joker's Pub.
Ma biche.
Ouais, un groupe de Paris. Un extrait de leur album qui s'appelle La nuit des Perséides. C'est quoi des Perséides?
Bah, les Perséides, c'est des étoiles filantes.
Oui.
C'est une pluie d'étoiles filantes qui a lieu au mois d'août et qui est à l'origine, on peut dire, de la nuit des étoiles.
Merci, professeur Patrice.
Qu'est-ce qu'on ferait?
Et on appelle ça les Perséides parce qu'elles paraissent provenir toutes d'un endroit donné qui est la constellation de Persée. C'est pas la seule pluie de la filante d'ailleurs dans l'année.
Persée avec un S. Bah,
oui. Percée,
avec un S de bouche.
D'accord.
Mais par exemple, t'as les Piscides, t'as plein de pluies de la filante qui donnent leur nom, qui viennent de la constellation d'où elles paraissent provenir.
Ça, c'est de la culture.
Bon, le titre de ce morceau, c'était Film Noir. Et c'est plutôt pas mal. Ils chantent des fois quand même. J'appelle ça toujours de la pop rétro.